Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 73 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui de la parentalité bienveillante et positive. Pour commencer ce thème, je vais vous proposer de regarder ce que ça fait en vous quand on vous parle de parentalité bienveillante ou de parentalité positive. Qu'est-ce que ça évoque spontanément ? Est-ce que c'est plutôt un idéal à atteindre ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose d'inaccessible ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est un concept qui vous paraît très éloigné de votre quotidien ? Ça fait déjà plusieurs angles de réflexion autour de ce mot « bienveillante » et « positive ». Personnellement, le terme de bienveillance, j'en ai tellement mangé dans les réunions d'équipe de professeurs des écoles à l'éducation nationale qu'il me sortait par les yeux. À chaque fois qu'on me parlait de bienveillance vis-à-vis des élèves de maternelle, j'avais l'impression qu'on me vendait quelque chose qui n'était pas à la hauteur des moyens donnés. Clairement, on nous parlait de bienveillance à l'égard des enfants, des équipes, des parents, du personnel, mais à aucun moment les moyens étaient disponibles pour bénéficier de tous ces beaux concepts, de toutes ces belles étiquettes. Une fois de plus, comme on l'a dit sur les bêtises, sur les caprices, sur le terrible tout, je vais vous amener vers cette idée d'étiquette. Pourquoi la parentalité serait étiquetée bienveillante ? Une parentalité serait-elle négative ? C'est quand même assez horrible de se dire ça. On prône la parentalité positive comme si il existait la parentalité négative consciemment, comme si des parents voulaient volontairement avoir une parentalité négative. C'est quand même assez surprenant de poser ces adjectifs-là à côté du mot parentalité. Alors, si vous avez lu déjà plusieurs livres sur la parentalité, vous savez qu'on fait référence aux violences éducatives ordinaires, à une certaine communication dans les générations, dans la hiérarchie, qu'on parle aussi de poser un cadre, donc on va y revenir tout à l'heure sur le comment, mais là je voulais vous intéresser au pourquoi on parle de parentalité bienveillante et de parentalité positive. Quels ont été les concepts et les notions qui ont abouti à ce terme-là ? Vraiment, le mot bienveillant, il est très joli de l'extérieur, il est magnifique, il est parfait. Tout le monde aimerait avoir autour de lui des parents bienveillants, des enfants bienveillants, des amis bienveillants, des collègues bienveillants. Donc oui, ce serait bien une direction à prendre, un idéal à espérer. Donc le passage à l'action, qu'on verra tout à l'heure, va être un petit peu ambitieux vis-à-vis de cet idéal de bienveillance. Pareil pour le mot positif, parentalité positive, ça veut dire que tout est permis, tout est autorisé, on ne doit pas s'énerver, on ne doit pas avoir d'émotions désagréables. Tous les raccourcis que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, sur les réels, sur les TikTok. Est-ce que la parentalité positive, c'est laisser tout faire ? Est-ce que la parentalité positive, c'est faire plaisir au désir de l'enfant ? S'oublier en tant que parent ? Renoncer à un cadre ? Il y a vraiment beaucoup de pensées autour de cette notion d'éducation bienveillante, de cette notion d'éducation positive. La première fois que j'ai entendu ce mot positif, c'était dans les évaluations à l'école. Donc l'éducation au sens de scolarité, qu'est-ce qu'on évalue sur les compétences de l'élève pour voir qu'il a aussi progressé. Donc cette notion du positif, elle me parlait beaucoup en tant qu'enseignante, parce qu'on voyait enfin le chemin et non pas seulement le résultat. Donc c'est quelque chose que vous allez retrouver dans d'autres épisodes du podcast, mais de se dire que on est chaque jour en train de progresser, on est chaque jour en train de mettre à jour nos connaissances, notre base de données dans le cerveau, comme on a vu dans l'épisode 43 sur la manière d'apprendre de l'enfant, donc de l'humain. Donc nous aussi, on a appris comme ça. On a chaque jour pu mettre à jour ce qu'on pensait, de le garder, de l'ajuster, de tester, de rectifier. On peut faire ça. Simplement de dire une évaluation positive, une éducation positive, une parentalité positive, comme si c'était du mieux chaque jour, encore mieux, une nouvelle version du parent, comme s'il y avait quelque chose à cocher dans la performance, dans l'efficacité, dans la productivité. Est-ce que vous avez déjà ressenti une certaine pression extérieure, sociale, peut-être numérique, peut-être verbale, autour de vous, à toujours faire mieux, à toujours faire plus dans votre parentalité? C'est quand même effrayant de ressentir ça, de se dire qu'on a un juge extérieur par la population, la famille, les cercles de connaissances, qui pourrait juger que notre parentalité ne soit pas assez bien, ne soit pas assez positive, ne soit pas assez bienveillante. Donc voilà le cadre des questions qui tournent autour de ce mot parentalité bienveillance, parentalité positive. Quel est l'objectif de ces mots-là? Quel est le but finalement de poser ces mots-là, à part de vendre des livres et des programmes? Parce que ça, on sera d'accord sur le côté commercial, mercantile, comme je disais dans l'épisode de la semaine dernière sur le Terrible Two. Mais au-delà de ça, profondément, posez-vous là dans votre cœur et dans votre idée de la parentalité, quel est en réalité votre objectif à vous, votre but à vous dans votre parentalité? Est-ce que vous avez une clarté sur là où vous voulez emmener vos enfants, là où vous voulez transformer votre couple, votre relation à l'autre, votre relation peut-être à vos parents aussi? On en parlera la semaine prochaine sur l'héritage éducatif. Mais de se dire, est-ce qu'on a vraiment une clarté de où on veut emmener notre parentalité? Peut-être que vous êtes très jeune parent, peut-être que tu as des enfants depuis 10 ans ou juste 2 mois. Et là, bien sûr, l'ambition, le projet, l'intention va être différent suivant la fraîcheur de ta parentalité. Si ça fait 2 mois que tu es parent, tu as une vision de la parentalité qui est encore un peu floue peut-être, malgré tes lectures, malgré tes témoignages. C'est le passage à la pratique, c'est le passage à l'expérience qui va te permettre de décider au jour le jour si c'est bon pour toi ou pas bon pour toi. Si tu es maman ou papa d'enfants de plus de 10 ans, de plus de 15 ans, tu as dû toi aussi faire des choix et te demander à chaque carrefour, est-ce que ça c'est mieux pour moi? Est-ce que ça correspondrait à des attentes extérieures de la société? Est-ce que je suis ça parce qu'on m'a dit de le faire? Est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre que de moi? Est-ce que le cadre de référence est le mien? Ou est-ce qu'il vient des experts, du pédiatre, du consultant, de la belle-sœur qui est spécialisée? Comment on peut poser des choix dans notre parentalité et s'en référer uniquement à nous-mêmes? Et ça, c'est bien difficile quand on devient parent. On reçoit les avis, on reçoit les conseils de tout le monde. Tout le monde a un avis sur la bonne méthode, sur la bonne façon d'élever des enfants, sur la bonne façon de leur apprendre la politesse, les émotions, les connaissances, sur quelles études il faudrait faire pour être parfait, pour être mieux, pour être bien. Et on en revient à des adjectifs sur qui décide des critères de ta parentalité à toi? Qui va choisir pour toi ce qui est bon ou non? En réalité, aucun des auteurs, aucun des experts, aucun des consultants autour de toi, aucun de tes amis, aucun de tes parents, beaux-parents, sœurs, frères, personne ne sait exactement où tu veux emmener ta parentalité. Tu l'as peut-être exprimé à 2 ou 3 occasions, en famille, en réunion. Mais on se rend compte que ces sujets-là froissent facilement. Un peu comme notre façon de choisir la DME, choisir l'allaitement, choisir le congé parental. Toutes ces petites décisions, ces micro-choix, peuvent être des points de friction dans les discussions autour de nous. Finalement, on n'est pas obligé de convaincre qui que ce soit que nos choix sont personnels, que nos choix sont intérieurs. Mais comme c'est un sujet dont s'empare la société, dont s'emparent les podcasts, les émissions télé, les livres, on se retrouve parfois embrigadé dans une conversation qui, à l'origine, semblait bienveillante, elle aussi, et qui, finalement, aboutit à « moi, j'ai plutôt raison et toi, t'aurais dû faire autrement ». Comme s'il y avait un classement de la parentalité. Comme s'il y avait une échelle de valeurs sur qui fait comment et qui fait quoi. Le seul point qui est à peu près convenu sur toutes ces parentalités et ces adjectifs, c'est de limiter au maximum les actions physiques et verbales violentes envers les enfants. C'est à peu près le point d'accord de tout le monde. Donc limiter au maximum l'utilisation de la violence éducative ordinaire, que ce soit par des coups, des menaces, des humiliations, des moments de punition, de comportement d'isolement, de comportement aussi où on ignore l'enfant, où on le rabaisse, que ce soit seul ou en public. Donc tous ces comportements de violence verbale, de violence comportementale et de violence physique, qui elles-mêmes sont des étiquettes, mine de rien, puisqu'il n'y a pas une grille normée avec ça, c'est exactement de la violence verbale ou pas. Ce qui donne lieu à d'innombrables discussions sur les réseaux sociaux autour du terme de violence éducative ordinaire. Qu'est-ce qui est bon pour toi par rapport à ta cheminée des émotions à toi, par rapport à ton quotidien? Parce qu'imaginons une maman récente se dire « j'ai bien compris qu'il ne faut pas crier, pas taper, pas punir, pas humilier, pas isoler, mais comment je fais? Quelles sont les pistes et les outils à sa disposition quand on a que la liste des choses interdites, des choses dangereuses, puisque c'est parfois présenté comme ça. Le fait de culpabiliser les nouveaux parents en leur disant « vous ne devriez pas faire ça, ça, ça et ça » ne donne pas, en parallèle, le comportement à adopter, l'attitude à adopter. Donc, sur la théorie, on est tout à fait d'accord, on voudrait être un parent bienveillant et positif. Mais quel est le mode d'emploi? Comment on fait? Comment on arrive à ça? Et quel est le modèle de référence? Parce que si c'est possible, ça donne envie d'imiter quelqu'un qui aurait réussi. Est-ce qu'autour de vous, vous avez quelqu'un qui semble avoir réussi à mettre en place une parentalité bienveillante et positive? Comment est-ce qu'il fait? Est-ce que ce qu'il fait vous convient? Parce qu'il pourrait très bien faire des choses qui tournent autour de la bienveillance et de la positivité, sans que ce soit lié à votre référence à vous, à votre culture, à votre cadre, à votre méthodologie. Peut-être que ce que fait le voisin a l'air bien au niveau de la société, mais que vous, ça ne vous parle pas. Et la difficulté dans la parentalité, c'est de trouver la recette pour ses enfants à soi, pour son couple à soi, pour sa parentalité, pour son mode de vie, peut-être son emploi du temps aussi, son organisation. Si vous habitiez sur une péniche, si vous travailliez de nuit, si vous aviez 7 enfants, la parentalité bienveillante et positive serait différente d'une famille de 4 qui a des horaires classiques dans une habitation classique, évidemment. Donc la recette n'est pas possible à adapter telle qu'elle d'un livre, d'un sondage, d'une émission, d'un podcast. Mais comment la créer pour qu'elle paraisse bienveillante pour vous, c'est vous l'important, c'est pas la société, et qu'elle vous paraisse être positive aussi pour vous. Donc dans cette idée de croissance que vous allez créer au fur et à mesure que vos enfants vont grandir, une connexion, un lien, une communication qui va à la fois nourrir la génération des jeunes, le côté des enfants, et aussi vous plaire à vous dans un équilibre des besoins de chacun. Donc on retrouve l'horizontalité de l'épisode 2 du podcast où les besoins de l'enfant avec tout ce nuage de termes autour de la nouvelle parentalité et la nouvelle éducation, est aussi importante que le nuage de besoin du parent, que le nuage du besoin de la jeune mère et du jeune père, qui eux-mêmes ont un arc-en-ciel de besoins à nourrir, qui eux-mêmes ont un besoin d'appartenance à cette société et cette communauté, tout en ayant aussi un désir de singularité, de surmesure, de connaissance d'eux-mêmes, de connaissance de leur fonctionnement, de leurs émotions. Donc plaquer telle qu'elle, une méthode quelle qu'elle soit, ne peut pas vous emmener directement à quelque chose de satisfaisant. Il va falloir tester ce qui vous va, tester ce qui vous donne envie, tester ce qui vous fait vibrer personnellement et non pas viser la perfection, puisque extérieurement, les critères ne sont pas cochés, personne n'est juge de la perfection. Ça, c'est un concept qui ne marche pas en parentalité, et il y a peu d'endroits où ça marche d'ailleurs, mais plutôt viser une exigence par rapport à nos valeurs, peut-être viser une excellence par rapport à nos conditions de vie, peut-être viser une ambition par rapport à mes repères sur qu'est-ce que l'éducation, qu'est-ce que la parentalité. Ce qui veut dire que notre histoire va rentrer en ligne de compte, notre culture, notre religion, nos cicatrices, on en parlera la semaine prochaine aussi, nos cicatrices intérieures, émotionnelles, et elle ne pourra pas s'appliquer à une grille universelle, à une norme. Quand on balance le terme parentalité bienveillante, parentalité positive, c'est comme s'il y avait une norme établie et presque définitive. Ce qui fait vraiment peur sur certains comptes que je commence à suivre, moi qui découvre tous ces réseaux sociaux, je suis assez horrifiée de certains conseils et de certaines prédictions sur si vous n'élevez pas votre enfant de telle façon, il va devenir comme ça, vous allez le payer plus tard, vous n'êtes pas un bon parent et on rentre dans la culpabilisation de certaines familles. On n'est pas dans laisser tout faire, on n'est pas dans imposer tout, on est dans un juste milieu entre le laxisme, qui n'est pas de la parentalité positive, et l'autoritarisme, qui n'est pas non plus de la parentalité bienveillante et positive, puisque c'est descendant et que l'adulte a raison sur la plupart des sujets. On serait plutôt dans un cadre qui est posé au niveau des repères, au niveau des informations, au niveau des possibilités d'action pour les enfants comme pour les parents, d'une régulation des activités, des horaires, l'utilisation du matériel aussi. Donc tout ça va se coordonner dans une certaine démocratie à la maison, dans une certaine coopération, collaboration. On est vraiment sur la rayure d'expression, sur la rayure du collectif, puisqu'à chaque instant, on ajuste ce que vit l'enfant avec ce que vit le parent, sans se référer à un extérieur, à une charte complètement externe et utopique de ce qui serait bon pour ta famille, de ce qui serait bon pour tes enfants et ta méthode d'éducation. C'est le pas à pas qui va te permettre de voir comment ta parentalité te convient. Est-ce que tu te sens bien dans ta parentalité, auquel cas il n'y a pas besoin de changer de méthode? Est-ce que tu vois que les effets de ta parentalité sont plutôt cohérents avec ce que tu attendais, des résultats? Peut-être par rapport à la façon de parler de tes enfants, à la façon d'agir de tes enfants, est-ce que tu les sens assez autonomes? Est-ce que tu les sens prêts à prendre quelques risques, à écouter, à être à la fois dans le respect de l'autre et le respect d'eux-mêmes, d'approcher aussi la conscientisation de son corps et du consentement? Donc ça, c'est des épisodes que tu pourras retrouver dans le podcast, notamment l'épisode 19 autour de la parole et l'épisode 20 autour du corps. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu vois à la maison? Si tu es satisfait, que ça coche les cases de ce que pense la société, finalement, ça ne nous intéresse pas beaucoup. C'est vraiment pas urgent de se dire « Bon, bah apparemment, c'est pas ce qu'il faut faire, mais moi, ça me convient comme ça. » Par contre, si tu sens que ton enfant n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent, que certains de ses comportements te paraissent inattendus, peut-être incompréhensibles ou irréguliers, que toi-même, tu te sens en difficulté face à l'autorité que tu poses, le cadre que tu poses, là, ça pourrait être intéressant de te dire « Au-delà de l'étiquette de bienveillance et de positive, qu'est-ce qui dans ma parentalité me convient encore et qu'est-ce que je voudrais changer ? » Et là, l'idée de croissance est vraiment percutante parce que à tout moment, on peut changer de mode d'expression à nos enfants. La cohérence et la régularité, c'est important, mais ça ne nous empêche pas de changer de façon de faire. On peut, le mois prochain, décider de réorganiser la chambre, réorganiser le week-end, l'emploi du temps, la façon de parler, la façon de proposer les règles et d'expliciter les conséquences aussi des comportements de chacun. À tout moment, on peut mettre à jour sa parentalité. À tout moment, on peut décider de faire autrement. Ce mot « autrement », je l'entends beaucoup dans les mamans que j'accompagne. Elles ont envie de faire à leur façon, pas comme leurs parents ont fait, pas comme la voisine fait, pas comme la sœur fait. Vraiment ce qui vient de l'intérieur. Donc c'est pour ça que je redis le mot de clarté, parce que si vous, vous faites la clarté sur ce que vous ressentez en tant que parent, et que vous ressentez aussi sur quels sont les attendus que vous voulez, quels sont les critères de réussite pour vous seulement, quels sont vos critères de réussite pour que votre parentalité vous paraisse la meilleure, l'idéal pour vous, pas un idéal extérieur. Et une fois que vous avez défini ça, là, vous pourrez éventuellement chercher les stratégies pour les mettre en place, chercher des informations, chercher des contenus qui vont vous soutenir dans cette mission-là. Donc, ça pourrait être un livre, ça pourra être une permanence au centre social, ça pourra être une spécialiste de la PMI, ça pourra être une consultante extérieure. Mais une fois que vous savez où vous voulez aller dans votre parentalité, vous trouverez les ressources correspondantes et justement adaptées à votre demande, adaptées à votre besoin. Parce que le risque, c'est de s'éparpiller complètement parmi toute l'offre qui est en ligne. Toute l'offre qui est en ligne sur comment faire du Montessori à la maison, comment faire l'instruction en famille, comment avoir une communication fluide. Des offres, il y en a dans tous les sens. Mais peut-être que ce n'est pas ce dont vous avez besoin maintenant. Qu'est-ce que vous voulez, vous, installer comme parentalité, comme régulation des émotions, comme cadre de référence, comme critère de règles, d'utilisation du matériel, des locaux, le volume sonore? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des bagarres entre les enfants? Qu'est-ce qu'on fait quand on est épuisé en tant que parent? Quel relais on a autour de nous? Quelle personne de confiance on a pour passer la main quelques heures et puis aller remplir notre réservoir affectif, émotionnel à nous parents? Toutes ces questions que m'évoque la parentalité bienveillante et positive, je vous invite à voir à quel point ça peut être une fermeture dans un jugement, une sorte de jugement qui nous éloignerait de ce qu'on veut vraiment, qui nous éloignerait de ce qu'on voudrait créer de manière singulière pour notre famille, parce qu'une fois de plus, notre famille n'est pas celle des autres. Donc il va falloir faire alliance avec nous-mêmes, être humble aussi par rapport à ce qu'on a déjà installé. Peut-être que ce qu'on a déjà fait auparavant ne nous plaît plus, donc c'est pas la peine de dire j'ai été nul ou j'ai pas assuré. Maintenant, je prends conscience que ces actions ne me plaisent plus. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer? Quel plan d'action je vais pouvoir mettre en place pour changer ces petits points qui ne me conviennent plus? Sans nous saboter, sans nous juger, sans laisser notre hamster Léopold balancer tout un tas de critiques intérieures, on va être très patient sur ce domaine de vie. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Des petits pas. Encore des petits pas. Et arrêtons de se comparer au réseau. Et arrêtons de se comparer à ceux qui apparaissent de manière superficielle comme des parents exemplaires. Comme des parents qui apparemment ne crient jamais. Comme des parents qui apparemment ne s'énervent jamais. Je ne crois pas que ça existe. Des parents qui ne crient pas, qui ne s'énervent pas, qui n'ont pas de point de conflit et de friction avec leurs enfants. Ce n'est pas ce qu'on montre en priorité, ce n'est pas ce qu'on utilise comme argumentaire de vente, mais en réalité, soyez complètement sûr que même le meilleur des experts, psychologue de la petite enfance, accompagnant parental et tout ça, est lui-même confronté à ses propres flammes de déception, de tristesse, de colère, de doute sur sa méthodologie parentale, sur sa façon de parler à ses enfants. Non, on ne peut pas être toujours dans une communication bienveillante, positive, non violente. Il va y avoir des mots qui auraient pu être mieux choisis, oui. Il va y avoir des intonations qui piquent un peu, oui. Soyons humbles et vulnérables par rapport à nos propres agissements. À aucun moment on peut nous-mêmes réguler à 100% nos propres flammes. Quand notre enfant a un comportement inadapté, inattendu, qu'on ne voulait pas voir, et je vous renvoie à l'épisode 67 à ce sujet, c'est normal de réagir. À l'intérieur, on réagit. Et puis, ce qu'on va pouvoir développer, ce qu'on fait aussi dans les offres que je propose, c'est diversifier les lamelles sur l'éventail de stratégies. Une fois qu'on voit ce que ça provoque dans notre cheminée des émotions, on va choisir une stratégie différente pour y réagir. Ce sera peut-être moins en criant, ce sera peut-être moins en punissant, ce sera peut-être en exprimant à l'avance des règles qui éviteront les comportements débordants. Il y a plein de lamelles différentes pour organiser sa parentalité. Il y a vraiment un choix énorme de stratégies possibles en fonction de votre priorité à vous. Donc, si vous avez envie de parler de communication, on pourra mettre en place 3 actions différentes. Si vous avez envie de parler de poser les règles à la maison, ce sera 4 autres actions différentes, etc. Le but, avec les petits plus zen, avec quelle que soit l'offre que vous allez choisir, c'est de voir ce qui vous va le mieux en fonction de vos besoins à vous, de vos émotions à vous et de ce que vous comprenez au niveau des informations, du sens, des comportements de vos enfants, suivant leur âge, suivant votre passé aussi, si vous êtes maman solo, si c'est des enfants de papas différents, si vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps, etc. Pour installer une parentalité plus engagée, plus respectueuse des besoins de l'enfant et des besoins du parent, il y a beaucoup d'options possibles. Ne vous référez pas spécialement à ce que vous entendez au quotidien parce que c'est une référence externe à vous. Mais essayez, si vous avez l'élan, d'écrire sur une feuille tout ce que vous voudriez changer, tout ce que vous auriez envie d'avoir comme résultat dans votre parentalité. Sur le site lppzen.com, vous avez un onglet qui s'appelle Autotest. Ça peut être aussi une porte d'entrée pour voir quels sont les domaines de votre parentalité que vous voudriez accentuer, mettre en avant ou peut-être partir sur ces chemins-là en priorité. Il y a une 60aine d'items et vous pourrez voir dans les items lesquels vous paraissent les plus pertinents pour votre choix de parentalité. Aux États-Unis, ils parlent de parentalité consciente. Alors, j'aime bien ce mot, mais je vais choisir pour vous, pour cet épisode, d'aller vers une parentalité empathique. Comment ce serait pour vous si vous arriviez au quotidien à vous connecter aux besoins, aux sensations et aux paroles de vos enfants ? Et si vous entendiez à quel point vos enfants entendaient à leur tour vos émotions, vos besoins et vos paroles, sans qu'on soit en conflit permanent, soit que l'un essaye d'avoir le pouvoir sur l'autre, en désactivant vraiment cette idée de domination régulière, on va dire ancestrale, qui est ancrée dans le patriarcat, il n'y a pas de liste magique d'actions pour faire obéir nos enfants. Il n'y a pas de workbook magique pour que, en 3 semaines, vous arriviez à avoir une parentalité où personne ne crie, personne ne s'énerve et personne n'est triste et personne ne pleure. Ça n'existe pas. Les pleurs, les cris, l'expression, ça fait partie de la vie. Ça montre justement que notre cheminée est active, ça montre justement qu'on est vivant. Et entendre certains experts autoproclamés dire que l'enfant ne doit pas pleurer, que l'enfant ne doit pas crier, bien sûr que si. L'enfant a le droit de pleurer, l'enfant a le droit de crier, ce sont des stratégies pour évacuer, pour comprendre, pour matérialiser, pour vraiment exprimer ce qui se passe en lui. Donc si un jour votre enfant crie, si un jour votre enfant pleure, accordez-vous beaucoup de douceur en vous disant « il exprime ce qu'il vit intérieurement ». Ça ne me met pas en danger, ça ne dit pas de moi que je suis un mauvais parent, ça ne dit pas de moi que j'ai mal fait. Au contraire, je laisse mon enfant vivre ce qui est à l'intérieur de lui. Peut-être qu'il est déçu, peut-être qu'il est triste, peut-être qu'il est frustré, comme tout être humain, comme nous. Nous aussi, il y a des jours où on est triste, où on est déçu, où on est frustré, où on doute, où on se sent honteux, coupable. Notre enfant traverse exactement les mêmes émotions que nous. Et plus on fait la paix avec nos propres flammes, plus on apprivoise notre cheminée des émotions, et plus on va pouvoir incarner pour lui cette puissance du modèle dont je vous parlais dans l'épisode 6, qui va transmettre en fait un comportement, une attitude d'acceptation de tout ce qui se passe en nous, de toutes ces flammes qui arrivent tout au long de la journée. Au lieu de dire « arrête de pleurer, c'est pas grave, arrête de crier, ça suffit, je t'ai déjà donné assez, tu es capricieux, etc. » qui nous emmène dans d'autres étiquettes et dans d'autres jugements du comportement. Je nous invite tous à faire la clarté entre « dans sa cheminée des émotions, il y a beaucoup de flammes, c'est difficile pour lui, j'entends que ça réveille en moi une frustration aussi parce que j'avais l'impression que ce thème avait déjà été abordé, qu'on va répéter, qu'on va recommencer, ça me fatigue, j'ai d'autres projets, etc. » Toutes ces pensées de Léopold sont normales et légitimes. Toutes ces pensées, on peut les travailler, c'est dans le module 3 d'Emotizen, avec un crash test, avec une reformulation. Quand on a ces outils, on a une sorte de liberté émotionnelle et de calme intérieur qui nous permet de relationner beaucoup plus sereinement avec nos enfants aussi. Parce qu'on accepte tout ce qui se passe en nous, au niveau pensée, émotionnel, jugement et besoin, on arrive à mieux le faire avec nos enfants, à mieux comprendre leurs besoins, leurs pensées, leurs émotions, et puis leurs stratégies d'action, leurs possibilités d'action. Ce qui est bien difficile parce que ces outils-là, on ne nous les a pas enseignés, on ne nous les a pas expliqués. Et même en tant qu'enseignante, je vous dis souvent, je n'ai pas eu ces outils-là pour comprendre les élèves. Quand je suis devenue maman en 2007, je n'avais pas ces outils-là. Ces outils, je les ai créés en classe, je les ai créés à la maison, je les ai affinés. Maintenant, je les transmets aux mamans qui sont dans les petits plus zen. Un petit coucou pour elles. Et toutes ces mamans-là, quand elles découvrent la reformulation positive, la cheminée des émotions, le bocal à deuil dont on parlera la semaine prochaine, le crash test des pensées, l'éventail de stratégies, le tequil, l'arc-en-ciel des besoins, elles ont une vision globale, elles ont une vision du système entier, du processus entier qui permet de créer sur mesure ce qu'elles veulent pour leur famille. Et oui, le coparent va intervenir dans tout ça, bien sûr. Mais je vous invite, vous, individuellement, que vous soyez un papa, une maman ou un enseignant, à voir comment vous vivez tout ça personnellement, comment ça résonne en vous personnellement, avant de faire équipe avec le coparent, avant même de faire équipe avec vos collègues. Parce que chaque somme des identités et des compréhensions mettra une pierre à l'édifice, mettra une collaboration. Mais l'important, c'est déjà ce que vous voulez, vous. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Vers quoi vous voulez tendre sur le long terme? Je parle souvent de long terme parce que quand on est le nez dans le guidon, quand on est le nez contre la porte du phare, on n'a pas la clarté sur tout ça. Donc ce que je vous invite, ce que vous avez peut-être entendu dans la masterclass Family Zen qui parlait des 5 étapes pour retrouver la sérénité en famille et que vous pouvez retrouver sur les liens dans ma bio à Instagram, c'est d'aller voir en haut du phare ce qui se passe. Quel est le long terme qu'on veut pour nos enfants? Quand ils seront adolescents? Quand ils seront adultes? Quelle relation on veut créer avec eux? Quelle est la vision que vous voulez sur le long terme et qui finalement automatiquement nous pousse à être moins autoritaire, à être moins laxiste, puisqu'on voudrait qu'à leur tour, probablement, vous aussi, qu'ils soient autonomes, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient capables de se débrouiller dans la vie quand ils seront adultes. Pour l'instant, ils sont petits, peut-être, vos enfants. Mais est-ce que vous arrivez à voir que dans 20 ans, ce seront des adultes autonomes, conscients, qui feront leurs propres choix? Est-ce qu'on peut déjà leur donner quelques choix à faire pour qu'ils voient les conséquences de leurs choix, pour qu'ils comprennent cette loi de cause-conséquence, pour qu'ils prennent des responsabilités à leur niveau? C'est comme si on musclait leur muscle de la responsabilité, de la conscience. Et c'est une partie de notre rôle d'éducateur et de parent. Muscler pour chacun de nos enfants la responsabilité de ses actes, la responsabilité de ses paroles, la conscience du monde extérieur, et la conscience de son monde intérieur. Et c'est un défi très grand, je vous l'accorde. C'est un défi très beau aussi. Moi, ça m'a toujours passionné de voir mes élèves comprendre comment ça se passait en eux. De voir les mamans en atelier de parentalité comprendre des déclics sur leur méthodologie, sur leur relation à leurs enfants. Désactiver le rapport de force qu'on a parfois installé à vouloir avoir raison, au lieu de se connecter à ce qu'ils vivent intérieurement. On a une projection de la réalité sur nos enfants, on a une projection de notre propre réalité d'ailleurs sur le monde. Mais quand on veut vraiment se relier à chacun de nos enfants, on voit que finalement la réalité de notre enfant n'est pas celle qu'on croyait. La réalité de nous-mêmes, ce qu'on croyait du monde, n'est pas non plus la vérité. Donc en revenir aux faits, vraiment partir de la reformulation du déclencheur, ça aussi c'est dans le module 4 d'Emotizen, si vous avez envie de faire partie de l'aventure, contactez-moi en message privé. Mais tous ces outils-là que les clientes pratiquent, que les mamans pratiquent, vont vers une autonomie de chacune de leur parentalité pour chacun de leurs enfants, parce qu'on peut aussi changer de parentalité entre le premier et le deuxième enfant. Certains d'entre vous le savent, ma grande fille a 15 ans et j'avais pas du tout la même parentalité avec ma grande fille qu'avec ma petite de 4 ans. j'ai changé, j'ai transformé ma vision des besoins d'un enfant, de l'autorité et du cadre. C'est toujours assez émouvant de voir ça parce que en 11 ans, j'ai vu tout ce que j'avais mal fait, en quelque sorte, avec ma grande. Et revient l'idée du jugement dont je vous parlais en début d'épisode. C'est pas confortable de se dire qu'on a mal fait. J'ai beaucoup crié sur ma grande, j'ai beaucoup menacé ma grande. J'ai même tapé ma grande plusieurs fois. De vous dire ça en toute vulnérabilité, en toute humilité, ça nous ramène à ce que, même en tant que spécialiste de la petite enfance, on a notre cheminée, on a notre réservoir affectif qui se vide continuellement. Une des pistes qu'on travaille aussi, c'est de remplir nos journées de flammes agréables. Ce sera l'épisode 75, on évoquera ça. De remplir notre réservoir de temps de qualité, de connexion avec nous-mêmes. Donc des tequils en solo, c'est l'épisode 62. De tequils en duo avec notre couple, avec l'autre parent, c'est l'épisode 41. Et puis aussi des tequils avec nos enfants. Comprendre ce dont ils ont envie et besoin. Comprendre ce qui nous ferait plaisir aussi, sans acheter, sans dépenser, sans faire de l'inédit constamment. Ça peut être vraiment des petites astuces très simples. Il y a un livret aussi qui est fourni dans le parcours Emotizen sur 52 idées de tequila très simples que vous pourrez retrouver aussi si vous rejoignez le parcours. Donc ces tequila, cette conscience, le fait de monter en haut du phare, d'être assez humble dans nos connaissances, dans nos compétences. Oui, chaque jour, on peut progresser, mais ce n'est pas une injonction à être toujours mieux, à faire toujours plus. Je dirais même qu'on est plus dans sentir que ça nous convient mieux que faire plus, que faire encore. Donc si on refait alliance avec nous-mêmes, si on arrête de se saboter, de se juger, si on est très patient, si on arrête de se comparer aux autres, j'ai des exercices pour aussi arrêter de se comparer aux autres. On en parlera à l'occasion si vous voulez qu'on travaille ensemble. Mais ça nous emmène aussi vers choisir nos combats, choisir nos priorités. On va lâcher sur certains combats, on va lâcher sur certaines choses peut-être superficielles. Oui, peut-être que notre fille est mal coiffée, peut-être que ça fait 3 jours qu'elle a le même pantalon. C'est pas grave. Si vous, vous mettez le focus sur la relation, la qualité de la communication, eh bien c'est plus important peut-être ce mois-ci que l'état de ses cheveux ou l'état de sa tenue. À vous de voir ce qui fait sens. Si pour vous c'est important qu'elle soit toujours très bien coiffée, avec des petites boucles d'oreilles, avec des belles chaussures cirées, peut-être que c'est important pour vous. Voyez ce qui est plus important pour vous et si la vie de l'enfant et la vie de la famille est à la hauteur des attentes et de vos critères de réussite. Et ce n'est pas à moi de les définir, c'est vraiment à vous de voir. Et je vous renvoie à l'autotest qui est sur le site, parce qu'il y a plusieurs questions à ce sujet sur comment vous vous sentez dans votre organisation actuelle. Donc envoyez-moi un petit message si vous avez choisi les 3 items qui vous paraissent les plus urgents pour vous, je serais curieuse de voir le résultat. Donc dans votre choix de direction, dans votre choix de critères de réussite, peut-être que ça va vous sortir d'un certain confort et d'une certaine habitude. Il va peut-être y avoir des nouvelles actions à mettre en place. Ça peut être difficile parce que c'est quand même remettre un nouveau chemin neuronal dans votre mode de pensée. Votre cerveau n'était pas habitué à ça, donc il va falloir créer une nouvelle connexion dans vos neurones, dans vos synapses et tout. Mais en réalité, tout ça est possible. Il suffit juste de voir vers où vous voulez aller. Si vous avez envie de soutien, bien entendu, je suis là. Si vous avez envie de mieux comprendre les outils dont je parle, notamment la reformulation positive qui est assez précieuse sur ce domaine-là, mais aussi le temps de qualité, le tequila, et puis comment on nourrit notre réservoir émotionnel, je vous propose de réécouter l'épisode 55 ou l'épisode 62 pour mieux comprendre l'articulation entre ces outils-là. Je vous souhaite une belle parentalité empathique plutôt qu'une parentalité bienveillante, plutôt qu'une parentalité positive. Voyez si ces étiquettes vous font du bien ou pas. Voyez si ces étiquettes ont un écho dans ce que vous vivez actuellement. Mais en tout cas, le but, je pense, c'est que chacun, les petits comme les grands, ait plus de flammes agréables dans sa cheminée que de flammes désagréables. Je vous souhaite une très bonne semaine. Rejoignez-moi sur les réseaux et dites-moi si vous avez apprécié cet épisode ou si vous avez des questions sur cet épisode. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle parentalité empathique. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.